Donc, brièvement, je présente donc la classe 1115 de Monsieur Ruben Casas González. Le Courrier a fait un petit article sur cette soirée. Donc, le journaliste, une des questions qu'il a interviewé l'enseignant et puis moi-même. Et une des choses qu'il m'a demandé, c'est comment ça se passe dans une classe, est-ce que c'est difficile. Et j'ai dit, la première chose qui est fondamentale, c'est l'accueil. Et quand on est accueilli aussi bien que je l'ai été dans cette classe, par l'enseignant et ensuite par les élèves, eh ben, c'est une bonne partie du travail déjà qui s'amorce dans les meilleures conditions. Le texte, donc je remercie vraiment cette classe et qui j'ai eu beaucoup de plaisir, qui a de l'ironie, de l'humour, avec une certaine gravité aussi. Le texte s'intitule « Vipérine ». Quelqu'un avait sorti dans un mot-clé le terme de vipère. Et puis, de là, eh bien, vu que le précédent texte que j'avais fait avec l'autre classe, c'était « Chemin des lézards », j'ai dit « on va rester dans les reptiles ». Et donc, « Vipérine », qui est un alcool que certains connaissent peut-être, enfin, c'est de l'alcool de pomme dans lequel on met une vipère vivante à l'intérieur. Et en mourant, la vipère crache son venin et on laisse reposer 5 ans avant de boire. Et en fait, la fin de l'histoire, c'est toute une série de personnages qui se retrouvent autour de cette bouteille de vipérine où chacun exprime des choses plus ou moins intimes de leur vie. Le thème est assez grave. Ce sont aussi des inquiétudes que ces jeunes ont. Il y en a une, c'est celui du suicide, la peur du suicide, la peur de la déchéance. Alors, il se trouve qu'on a un personnage commun avec la classe de Renan, c'est que notre personnage principal est un sans domicile fixe, qui s'appelle Francesco, qui avait avant une vie, qui était un homme qui avait un travail, une famille, et qui, suite à un drame personnel, celui d'avoir perdu sa fille, eh bien, se retrouve dans une chute. Et on prend l'histoire in medias res, c'est-à-dire au moment où il est sur le pont d'Ajonction. L'idée, c'était de prendre le décor existant. Il est sur le point de se jeter. C'est quelques jours avant Noël, de se suicider. Et arrive comme un ange, un jeune garçon qui s'appelle Jean-Charles, qui a 16 ans mais 8 dans sa tête. Et ce garçon, dans son innocence, va en fait sauver la vie de cet homme. Et ça va être l'histoire d'une rédemption, finalement, où cet homme va ensuite prendre soin de ce jeune garçon qui n'est pas tout à fait comme les autres. Et c'est une histoire qui a une belle fin. Sans être une fin, elle n'est pas complètement heureuse, parce qu'il restera toujours les blessures, mais il y aura une nouvelle vie qui s'offre pour cet homme, ce Francesco, qui aura réussi à finalement faire la paix avec lui-même et à recommencer une nouvelle vie avec des gens du voyage, donc des gens qui s'occupent des gens du voyage en partie, c'est pas complètement des gitans, mais des gens qui sont aussi du voyage, c'est-à-dire une propriétaire et sa fille de voitures tamponneuses qui font les manèges, en fait. Et voilà, leur vie recommence sur les routes. Alors, je remercie vraiment cette classe qui était très agréable. Ils ont écrit un très beau texte. Je vois que la présentation de la classe suivante a l'air d'être quelque chose d'assez particulier. On est dans une facture classique de lecture old school. Hein. Voilà, bonne lecture et bonne chance.
Il est 23h. Francesco décide de revenir à la gare pour y passer la nuit. C'est un soir d'hiver, il pleut et il fait très froid. Les mains dans les poches de sa parka, il voudrait faire le vide dans sa tête, mais c'est impossible. Je passe la plupart du temps à fouiller dans les poubelles, à me réfugier du froid dans ces putains de parkings. Je ne serais pas encore là si je n'avais jamais volé. Au départ, je voulais faire une grève de la faim jusqu'à ce qu'on m'embauche pour un travail payé. Mais après 2 jours, j'ai abandonné. Comme la pitié des gens ne me suffisait pas, j'ai commencé à voler. Au début, c'était une fois par mois, ensuite une fois par semaine. Une dizaine de francs, puis 100. Bref, je ne suis qu'un voleur qui est pauvre, sans abri, qui pue et qui n'a pas d'amis. Si seulement je pouvais revenir à ma vie d'avant. Ce soir-là, comme tous les autres, il revient du cimetière où il a passé la journée. Arrivé au pied du sentier, il traverse le pont de la jonction. Pas d'amis, et pourtant, dans la rue, tout le monde me regarde. Je me sens stupide. J'erre sans but, je bois pour oublier, pour rattraper à ce passé, pour échapper à ce passé qui me rattrape. Je n'arrive pas à tourner la page. Quel est mon rôle dans cette vie? Quelle est ma place dans ce monde? Je me sens mal. Je n'aurai pas dû naître. Tout me semble désespéré. Dans 3 jours, c'est Noël. Et alors ?
Malgré l'approche des fêtes, pour Francesco, c'est un jour comme les autres. Un jour noir. Il est rongé par ses blessures intérieures. Personne à qui acheter des cadeaux. Personne qui l'en offrira. Rien à foutre des cadeaux. De toutes ces familles heureuses qui fêteront Noël en riant. Les paquets qui vont déballer. Leur joie. Marre de ma vie. De la solitude. Marre de tout. Pour moi, ma vie se termine ici. De toute façon, je n'ai plus rien à perdre. J'ai plus de famille. Tous ceux à qui je tenais m'ont quitté. Mon patron m'a foutu à la porte sans même me donner de raison. J'ai même pas su protéger ma fille. Je suis un bon à rien, un raté. Un clodo dans la seule pensée est le suicide. Et si tout ça était irréel, si tout ça n'était qu'un cauchemar, alors il suffirait juste de sauter pour se réveiller.
Maintenant, Francesco se penche vers la barrière, prêt à sauter du pont. Nuit noire, il se mit à neiger abondamment. Le vent glacial frappe son visage, le pont est recouvert de verglas, et sur cette croûte, la couche de neige grossit presque à vue d'œil. Derrière lui, la voie du chemin de fer, devant le vide. En bas, le fleuve agité et le courant. La mort où que l'on regarde.
Les souvenirs heureux cèdent place à l'amertume. Il n'arrête pas de penser à ce jour où il l'a perdu, jamais il ne pourrait oublier. Oublier, Jessica, pardonne-moi s'il te plaît, si seulement j'avais pu mourir à ta place. Tout en sanglotant, Francesco prend la photo dans sa poche intérieure et la serre le plus fort possible dans sa main. Une de ses larmes atteint la photo et glisse lentement, puis finit par tomber dans la neige.
Francesco est sur le point de sauter. Il est au bon endroit, sur le pont qu'on appelle des suicidés. Francesco regarde en bas, lâche un doigt, puis l'autre, de la rambarde gelée.
Ce sera pas long, 3-4 secondes de la chute avant la noyade. Ce sera douloureux ?
Un jeune homme d'environ 16 ans surgit soudain dans la nuit, comme un ange ou un messager. Ce n'est pas une illusion. D'un mouvement un peu maladroit, le jeune homme passe par-dessus la barrière et se retrouve près de Francesco, épaule contre épaule.
Je peux jouer avec toi ?
Fous le camp, je ne joue pas.
Le jeune tape des pieds.
J'ai froid, très très froid. Sautez maintenant ?
Stop ! C'est bon, on arrête de jouer. Repasse de l'autre côté de la barrière.
Déjà ? Mais on saute même pas ?
Je ne peux pas faire cela. J'aurais tué 2 personnes. Je ne peux pas mourir avec ce poids sur la conscience. Encore un. Non, pas ce soir. Rentre chez toi, tes parents doivent t'attendre.
Mais j'ai pas de chez moi. Et papa et maman, ça fait longtemps que je les ai pas vus, mon papa, maman. On saute ?
Francesco se rend compte que s'il ne fait rien, le con va sauter. Ce garçon n'a visiblement pas toute sa tête.
Il y a toujours plus mal que soi, hein, Francesco ? Accroche-toi et fais comme moi.
Francesco passe de l'autre côté de la barrière, suivi du jeune homme.
Manquait plus que ça, un malade. On peut dire que t'as tiré le gros lot de Noël, mon bonhomme. Mais t'as quel âge ? Et tu t'appelles comment d'abord ? Tu sors d'où ?
Je m'appelle Zansarl, j'ai 16 ans, mais les gens ils disent que j'en ai 8 dans la tête et j'habite partout.
Comment ça, partout ?
J'ai pas de maison, j'habite un peu partout dans la rue. Et toi, tu t'appelles comment ?
Moi ? Peu importe.
Peu importe ? Je connais pas ce nom.
Ok, je m'appelle Francesco.
Dis Franqueco, ami avec Zansarl. Hein.
Francesco, avec un S.
Moi, j'ai très très faim.
T'as faim ?
Très très.
Ok, j'ai compris. On a juste un petit problème, l'ami. On n'a pas de fric. Mais ça, c'est pas un truc qui a l'air de t'inquiéter.
Francesco habite dans un vieux wagon abandonné. Il l'a emménagé avec de vieilles choses qu'il a récupérées dans la ville. Francesco invite Jean-Charles chez lui, si on peut appeler ça un chez-soi, dans ses vieux cartons. Et puis, dans un coin, une guitare. Car Francesco est musicien. Enfin, était. Depuis la disparition de sa fille, il n'a plus joué.
Tu peux dormir sur le divan. Tiens, voilà une couverture. Je vais faire du thé. Tu en veux ?
Je veux, oui.
Francesco prend une petite casserole cabossée, il renverse de l'eau d'une bouteille et la fait chauffer sur le réchaud de camping gaz.
Comment ça se fait que tu sois dans la rue, Jean-Charles ? Moi, ça passe encore, mais toi, ton âge, merde.
J'ai cramé ma maison.
Comment ça, brûler ta maison ? Et tes parents, ils étaient où ?
Ils étaient dans le jardin, j'ai vu un joli briquet rouge, alors j'ai voulu jouer avec.
T'es sérieux ? Mais t'as foutu quoi ?
C'est pas de ma faute, mais au méchant briquet.
Tu te fous de ma gueule ? Et tes parents, ils ont dit quoi ?
Je sais pas, parce que quand je suis revenue, la maison était toute brûlée. Et ils étaient pas là, papa, maman.
Tu sais s'ils sont morts ?
C'est quoi un mort ?
Un fou dangereux, voilà que j'ai invité dans mon wagon.
Hé, Franqueco !
Tu sais, Jean-Charles, il va falloir que tu...
Franqueco, écoute !
Quoi ?
Je blague.
Tu blagues ?
Sans ça, mais il aime faire des blagues. J'ai pas mis le feu, et je sais ce que mort veut dire.
Francesco se met à rire, Jean-Charles le regarde, les yeux qui brillent.
Je préfère ça. Bon, le thé est prêt. Tu vas me dire vraiment pourquoi tu es dans la rue, d'accord ?
Je sais pas trop si je peux en parler.
Je serai mal après.
Tu sais, Jean-Charles, on est deux à avoir des problèmes graves. Tu n'es pas le seul. Peut-être que si tu en parles, ça te soulagera.
Je suis d'accord, mais c'est toi qui commences.
Francesco réfléchit, c'était bien ce garçon qui lui a sauvé la vie, non?
Tu es au courant. J'avais une fille, Jessica. Elle avait 4 ans.
Je sais.
Ceci est très douloureux, Jean-Charles. On était sortis pour s'acheter une glace, un soir comme les autres. Il a fallu 2 secondes d'inattention pour que je lui lâche la main. Je n'ai même pas eu le temps de voir arriver la voiture. J'ai juste entendu le bruit fort frapper le capot. C'était ma fille, voilà. Pourquoi tu lui racontes ça? Laisse le malheur au fond de toi-même, laisse-le pourrir.
Le lendemain.
Je vais aller à Luna. En plus, j'ai un ami là-bas.
Non, c'est hors de question. Plus jamais je mettrai les pieds là-bas.
Une larme coule sur sa joue.
La dernière fois, c'était avec Jessica. Y retournerai, me rappellera trop de souvenirs.
Jean-Charles insiste et Francesco finit par céder.
Bon, d'accord. Il faut qu'on aille prendre le tram.
Il est 2 heures de l'après-midi quand les SDF arrivent sur la plaine de Plein Palais. Il fait froid et il n'y a pas encore beaucoup de monde et les lumières des manèges commencent à s'allumer. Jean-Charles et Francesco décident de faire un tour pour voir tous les manèges. Mais très vite, Jean-Charles s'arrête devant les autotamponneuses.
Moi, je veux faire ça, Francesco.
Francesco! Oh, et puis laisse tomber, de toute façon, t'arrives pas à le prononcer.
Francesco s'approche de la caisse où travaille une très jolie fille. Derrière la vitre, il voit un visage ovale à la peau mate. Les cheveux noirs et des yeux aussi gros et doux que des amandes. Francesco lui sourit, tend son billet, mais Jean-Charles lui prend l'argent. Dans les autotamponneuses, Jean-Charles ne sait pas du tout conduire. La piste est gelée, donc pour Jean-Charles, c'est encore plus difficile de conduire. Il tourne sur lui-même, va en arrière et fonce sur le côté de la piste. La voiture se retourne presque, tout le monde rigole, y compris la jeune vendeuse à la caisse. Jean-Charles se sent humilié et quitte les autotamponneuses en plein milieu du tour. Francesco lui court après, le rattrape.
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Charles?
Rien.
Tu parles?
On se parle pas.
Francesco comprend alors que ce pseudo-ami n'existe pas, mais que Jean-Charles est venu au Luna Park pour la caissière.
C'est à cause de la fille? Celle avec les yeux en amande? Si c'est pour elle, t'as du goût.
Non.
Tu es triste?
Non.
Tu voudrais lui parler?
Je suis handicapée dans ma tête, j'ai aucun sens, je parle pas, je suis moche.
Laisse tomber, Francesco. Qu'est-ce que tu peux faire de toute façon? La vie est injuste parfois, mais tu ne peux rien contre certaines choses. La mort de ta fille, l'handicap de Jean-Charles. Vraiment, Francesco, n'y aurait-il pas quand même quelque chose que tu pourrais faire?
En plus, tu te moques de moi.
Non, j'ai juste une idée.
Le lendemain, Francesco retourne seul au Luna Park. Il a demandé à Jean-Charles de rester faire un peu de ménage dans le wagon. Francesco attend son tour et s'approche de la caisse. Mais à sa grande surprise, ce n'est pas la jeune fille qui est à la caisse, mais une femme d'une 40aine d'années qui lui ressemble.
Bonjour, combien de jetons?
Ce n'est pas pour des jetons. La jeune fille d'hier n'est pas là.
Qu'est-ce que vous voulez à ma fille?
Votre fille?
C'est ça, jetons ou pas?
La mienne s'appelait Jessica.
S'appelait? Qu'est-ce que vous voulez?
Je dois vous parler, j'ai quelque chose à vous demander.
La femme le regarde.
Repassez dans un quart d'heure, je prends ma pause.
Francesco attend avant de revenir vers la caissière.
Écoutez, mon ami Jean-Charles, le garçon de 16 ans que vous avez vu hier, et moi sommes SDF. Mais on aimerait vous inviter, vous et votre fille, à fêter Noël dans mon chez-moi. Ça nous fera très plaisir.
Je sais pas trop. Faudrait que j'en parle à ma fille, voir ce qu'elle en pense. Mais c'est gentil de votre part.
Prenez vous-même la décision, ça fera une surprise à votre fille aussi. Ce sera un Noël spécial et vous fera un garçon heureux. Allez, dites oui.
La femme réfléchit. Elle est émue par cet homme.
Bon, j'accepte. C'est où et à quelle heure?
Dans un wagon sur une voie de garage vers 19h. Je vous fais un plan, donnez-moi un crayon.
D'accord.
Vous vous appelez comment?
Yolande.
Et votre fille?
Pamela.
Je suis Francesco, enchanté.
Francesco rejoint son wagon lorsqu'il croise dans le quartier de la gare un mendiant d'une 40aine d'années qui porte des lunettes noires et tient une canne blanche dans sa main. Perdu dans ses pensées, il ne fait pas attention à lui. L'aveugle s'arrête.
Rien à me voler aujourd'hui? Je vais te casser la gueule.
Quoi?
Espèce de salaud, je vais te casser la gueule. Tu te souviens pas de l'aveugle de l'autre jour?
Non, arrête, je t'en prie. C'est vrai, je n'aurais pas dû, mais j'en avais vraiment besoin. J'ai honte.
Une lueur de gentillesse traverse son regard.
Ça ne servira à rien de se battre.
Il doit être croyant, voilà pourquoi il m'a pardonné.
En effet, un petit livre dépasse de la poche et Francesco peut lire que c'est le Coran.
Je pense qu'on devrait faire connaissance.
Je m'appelle Francesco, je suis très pauvre, je vole pour vivre.
Enchantée, je m'appelle Samir, je ne suis pas aveugle, je suis rome et je fais la manche pour vivre.
Les deux hommes éclatent de rire.
À propos, qu'est-ce que tu fais pour Noël?
Jean-Charles et Francesco vont dans les bois pour trouver un sapin, afin de décorer leur wagon. Juste avant, ils ont trouvé une hache dans une décharge et l'utilisent pour couper le sapin trouvé juste sous le pont de la jonction. Ils ont amené le sapin dans le wagon, ensuite ils vont en ville pour voler des décorations. Ensuite, ils rentrent tous les deux au wagon, le nettoient de fond en comble, jettent les ordures, font un ménage d'enfer et décorent le sapin. Francesco installe même des bougies pour rendre l'intérieur plus chaleureux. Au final, le wagon ressemble à une vraie chambre d'hôtel. Enfin presque, avec un peu d'immunisation en tout cas, car il est prêt à accueillir les invités.
Après avoir bu quelques verres, tout semble calme et sentent qu'ils peuvent parler sans problème et dire ce qu'ils ont dans le cœur. Ils se mettent à parler de choses intimes.
Voici ce qu'il ressort des thèmes abordés. Le bonheur, c'est être content de ce que l'on fait, c'est aimer ce qu'on est, c'est obtenir quelque chose que l'on veut, être content de la vie, et être aimé et ne pas être seul.
Ma pire crainte, c'est la mort de ce que j'aime, de mourir le cœur agité, de ne pas savoir quand on va mourir, de rester sans famille.
Mon plus grand souhait, ne pas avoir de crainte concernant l'avenir, une vie paisible, le bonheur des autres et qu'on soit fier de moi.
Les yeux de tous brillent. C'est Noël, c'est la vipérine. Un bonheur enfin ressenti après ces mois de solitude. Francesco fait alors une chose qu'il n'a plus faite depuis longtemps, depuis la disparition de sa fille. Il prend la guitare. C'est une chanson que j'ai composée. Mon cadeau pour Jean-Charles. Ça s'appelle « 8 ans à la tête ».
C'est l'histoire d'un orphelin qui a tous les soirs le même chagrin, qui pense que tout est lié au destin, qui a peur de tout et de rien. Il prend tout à la légère, il se met souvent dans des galères, comme ce fameux jour où il a voulu suivre un inconnu et partir pour toujours. Il ne fait pas l'âge qu'il a, malgré tout il est quand même comme ça. Il ne fait pas l'âge qu'il a, malgré tout il est quand même comme ça. Il parle bizarrement à cause de son zozotement. Il aime une jolie fille, mais ne sait comment lui adresser une parole sans s'afficher bêtement. Il l'aime, mais elle non, ne sait même pas qui il est, ni même son prénom. Elle se dit que c'est un voyou, alors que ce n'est qu'un jeune homme, abandonné avec un manque en lui, c'est tout. Il ne fait pas l'âge qu'il a, malgré tout, il est quand même comme ça. Il ne fait pas l'âge qu'il a, malgré tout, il est quand même comme ça.
Francesco termine sa chanson. Tous sont émus, personne ne parle. Pamela ne sait pas quoi dire. Jean-Charles regarde ses pieds. Soudain, dans l'obscurité de la nuit et dans le silence de la gare Cornavin, on entend approcher les sirènes de la police. Des lumières bleues et rouges leur font comprendre que leur Noël va prendre une autre tournure. La police arrive, envahit les lieux et emmène tout le monde au poste. Une fois là-bas, Jean-Charles, Francesco et Samir sont retenus au poste en garde à vue car ils n'ont pas de papier et sont ivres à cause de la vipérine.
Pamela et sa maman Yolande vont chercher Francesco et Jean-Charles au poste. Samir n'est pas libéré car d'après les recherches de la police, il est illégalement en Suisse et sera renvoyé en Roumanie. Une fois dans la rue, Francesco et Jean-Charles sont surpris de revoir Pamela et Yolande. Vous pouvez vous installer dans notre ancienne roulotte. On a besoin de bras pour notre manège au Luna Park. Nourrir, loger, un peu d'argent de poche, c'est tout ce que je peux vous proposer.
Je pourrais te faire un cadeau à toi et à Pamela.
Francesco est perplexe. Mais sous l'insistance de Jean-Charles, il finit par accepter.
Merci, Yolande.
Pas de quoi, ça me fait plaisir. En plus, j'ai besoin de 4 bras pour démonter le manège, car je n'aurai plus personne pour m'aider. Mais d'abord, il faudra vous doucher. Sans ça, vous ferez fuir les clients.
Il devrait être heureux, les choses s'arrangent. Et pourtant, c'est un jour de tristesse pour Francesco, car il se rend dans le cimetière où il n'était plus retourné depuis qu'il avait rencontré Jean-Charles.
Ma fille, depuis que tu n'es plus là, ma vie n'est plus la même. Comme si cette vie n'était plus la mienne. Je n'ai plus la même vision des choses. Pardonne-moi, Jessica, s'il te plaît.
Francesco est alors interrompu par des sanglots dans son dos. Il se retourne, se lève. Une femme pleure, les mains sur son visage.
Pénélope, c'est toi ?
Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. D'abord, remercier mes élèves d'être déjà venus, c'est déjà pas mal. Et puis aussi de tout le travail qu'ils ont effectué pendant ces 4 mois. Et puis évidemment, remercier surtout Joseph et Ours pour cette possibilité qu'ils nous ont donnée de laisser s'exprimer ces enfants, ce qui n'est pas toujours chose évidente à l'école, vu qu'on fait souvent du travail très, très scolaire. Et là, ça leur a permis de laisser émerger leurs idées et parfois leurs soucis, ce qui est d'une bonne chose. J'insiste pour Joseph parce qu'il a beaucoup parlé de nous, mais lui, il a fait un travail de longue haleine. Donc chaque semaine, il reprenait tous les textes des élèves, il essayait de les assembler, collage, mélange, etc. Et vraiment, c'était un travail d'équipe et je pense que les élèves ont beaucoup appris. Et je pense que vous pouvez aussi applaudir Joseph, vous, les élèves, pour le remercier de tout le travail qu'il a fait. Et puis pour finir, j'aimerais juste lire l'épigraphe du livre qui n'a pas été lu par Billy, étant donné que je pense qu'il se concentrait énormément sur son texte, mais qui a été écrit par Billy, donc qui vaut aussi la peine. Ça dit « Dicen que los niños son ángeles que bajan a la tierra para hacernos más buenos ». Donc on dit des enfants que ce sont des anges qui descendent sur terre pour nous rendre plus bons. Voilà. Donc j'espère qu'on gardera ça tous en tête un bon moment. Voilà. Bravo.